Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette deuxième session de la journée, la sixième de notre colloque. Pour cette session numéro 6 sur les risques et les épreuves dans les professions, les carrières et les trajectoires artistiques. Alors, on avait choisi pour le titre de cette session des termes très boltanskiens et de Boltanski et de Capiello sur la critique du capitalisme pour caractériser un peu les risques que peuvent trouver des artistes sur leur trajectoire et leur parcours artistique. Et ici, en l'occurrence, des artistes lorsqu'ils sont minoritaires à l'intersection de plusieurs et de divers rapports sociaux. Les trois communicants vont éclairer ces thématiques en mêlant notamment deux types de sociologie, une sociologie de la socialisation et une sociologie du travail artistique, à travers lesquelles on pourra éprouver les thématiques de ce colloque. Alors, je vais présenter les trois communicants. En premier lieu, nous écouterons Karim Amou, qui est chargé de recherche au CNRS, ici même, au laboratoire Crespa CSU, notamment auteur d'un ouvrage nommé « Une histoire du rap en France ». Ensuite, nous écouterons Marie Buscato, qui est professeure des universités à l'université Paris 1 Sorbonne et à l'IDEHES, et qui travaille notamment sur les rapports sociaux de sexe dans les mondes de l'art. Notamment, nous connaissons ses travaux sur les femmes dans le monde professionnel du jazz. Et enfin, nous entendrons Nicolas Roux, qui est post-doctorant au Centre d'études sur l'emploi et le travail, au CNAM, et associé au LIS, et qui a soutenu en 2017 une thèse sur la soutenabilité de l'emploi discontinu, en prenant comme cas d'étude deux types de travail, d'un côté le travail saisonnier agricole, et de l'autre côté le travail artistique. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Marie Buscato pour une communication sur décrypter les trajectoires artistiques à travers le concept d'intersectionnalité.
Bonjour. Merci aux organisateurs, aux organisatrices, j'aurais dû commencer par organisatrices vu leur nombre majoritaire, de m'avoir invité, de m'avoir accepté dans ce colloque et de pouvoir partager quelques idées avec vous. Ce que je vais essayer de faire dans ce colloque consacré à l'intersectionnalité dans les arts, c'est de partir un petit peu de Merci beaucoup. Ce que j'avais proposé aux organisatrices et organisateurs du colloque, c'est de faire quelque chose d'un peu différent, parce que c'était aussi proposé dans l'appel, c'est-à-dire d'être non pas ici pour présenter un cas empirique, comme l'a fait Karim et va le faire Nicolas, mais plutôt d'essayer de proposer une réflexion épistémologique. En quoi, finalement, utiliser ce concept d'intersectionnalité peut être intéressant pour étudier les trajectoires artistiques en tant que chercheur ou chercheur. Donc évidemment, comme tout le monde, je montre quand même que je ne parle pas dans le vide, je parle de choses de mes travaux passés et ceux de mes collègues, ceux avec lesquels j'ai pu travailler dans le passé, comme Karim, entre autres exemples, mais aussi les collègues à l'étranger, en France, qui ont publié sur ces questions de manière directe ou indirecte. Donc voilà, j'ai d'où un peu finalement cette diapositive qui a pour but de, je prends des vieux mots, hein, cette image qui a pour but de montrer un petit peu le fondement, mes travaux sur le travail artistique et ceux de mes collègues, mes travaux sur le genre dans les arts et puis des travaux plus récents sur l'intersectionnalité, notamment un numéro spécial qu'on est en train de mettre en place avec Joël Allier et Marine Cordier sur l'intersectionnalité au cœur des formations artistiques à partir d'un projet qu'on a mené à 5 avec également Vera Léon et Mathilde Provençal. Alors, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est une réflexion qui avait commencé quand je travaillais vraiment sur le genre, notamment sur le jazz, comme cela a été présenté tout à l'heure, mais que je développe autour du concept d'intersectionnalité qui, à mon avis, permet de le faire encore plus, de manière plus fondamentale. C'est essayer de montrer un petit peu l'apport que peut avoir une analyse intersectionnelle quand on veut étudier les trajectoires artistiques pour mieux comprendre les trajectoires artistiques. Il ne s'agit pas évidemment de dire que si on n'a pas d'approche intersectionnelle, on ne peut pas travailler sur les inégalités sociales ou sur les trajectoires artistiques. Pierre Bourdieu, Warbecker et l'ensemble des personnes qui sont venues pendant ou après l'ont déjà fait. Donc c'est plutôt de montrer que quand on approche un terrain avec une approche intersectionnelle, on tend à encore mieux voir finalement ce qui fait une trajectoire artistique. Ici, je vais prendre trajectoire artistique, évidemment, à tous les stades. Hein. Karim a montré que ça démarre très tôt, ça peut commencer dès l'enfance, et aller aussi jusqu'aux deuxièmes parties de carrière qu'on a tendance à un peu oublier, En ce moment, je dirige un numéro spécial pour la revue Recherche sociologique et anthropologique, où je rassemble des articles justement sur, à partir d'enquêtes menées en France ou à l'étranger, sur ces deuxièmes parties de carrière, et s'obliger à les regarder avec une approche intersectionnelle, là encore, permet de complexifier notre compréhension des trajectoires artistiques. Première chose que permet de faire l'approche intersectionnelle quand on étudie des trajectoires artistiques dans les différents temps de cette trajectoire, c'est de mieux comprendre le rôle des stéréotypes sociaux. Deuxième point, mieux comprendre la place et la force des réseaux sociaux. Troisième point, mettre un peu plus l'accent sur le soutien de la famille, et la famille prise au sens large, c'est-à-dire dans l'enfance, l'adolescence, mais aussi quand on fait couple, ou quand on fait plusieurs couples, ou quand on a des amants ou des maîtresses, parce que tout ça fait partie de la vraie vie. Les politiques publiques et les règles légales, qui affectent largement les trajectoires artistiques, et rentrer par l'approche intersectionnelle permet vraiment d'en être convaincu. Et puis, ça permet aussi de mieux saisir les trajectoires artistiques périphériques qu'on pourrait tendre à ne pas voir ou à ne pas étudier, puisque par définition, justement, elles sont périphériques, et on peut tendre à travailler plutôt sur les stars ou les personnes qui ont trouvé leur place, ou les œuvres d'art qui ont trouvé leur place dans ces mondes de l'art. Donc, première chose, j'irai assez vite parce qu'on est entre personnes qui connaissent bien le sujet, mais éventuellement, il y aura des questions ou des échanges. Les stéréotypes sociaux façonnent la réception et la reconnaissance artistique. Donc, ça joue de deux manières. La première manière évidente, c'est que ça va dire qu'il y a certaines choses qui sont des œuvres d'art et d'autres choses qui n'en sont pas. Et pour prendre l'exemple du rap, ça a été tout un travail de légitimation, et ça continue à l'être d'ailleurs au sein du rap, de dire mais ce qu'on fait, c'est de la musique, au même titre que le jazz ou la musique classique. Donc, il y a des gens qui décident ou non que c'est de la vraie musique ou que ce n'est pas de la vraie musique, du vrai théâtre ou ce n'est pas du vrai théâtre. Donc, quand on approche la question des inégalités sociales, qu'elles soient d'âge, qu'elles soient de genre, qu'elles soient de sexe, liées à la racisation des personnes, qu'elles soient liées à l'origine sociale, etc., etc., on accède directement à cette question-là, puisqu'on va travailler sur des personnes qui sont plutôt minoritaires, voire exclus, et qui souvent, dans leur propre production, vont se trouver confrontés à ces stéréotypes sociaux, pour une partie d'entre elles en tout cas. Donc, par exemple, je vais donner un exemple simple, celui de Marie Goyon, qui avait publié un article dans un numéro que j'avais co-dirigé avec Marie-Hélène Sini. Et Marie Goyon travaille sur des artistes plasticiennes qui sont également d'origine indienne, amérindienne. Donc, elle se retrouve confrontée avec l'idée que ce qu'elles produisent, ce n'est pas de l'art, puisqu'elles utilisent des matériaux finalement liés à au fait qu'elles sont amérindiennes et qu'elles sont des femmes, et du coup ce qu'elles produisent ne peut pas être considéré comme de l'art. Et ces artistes ont décidé que c'était de l'art et ont décidé de trouver des supports, des gens qui s'approprient leurs œuvres et qui vont progressivement les faire rentrer dans les musées. Donc les stéréotypes sociaux qui sont attachés à ces personnes, liés à leur socialisation et à l'image que se font les acteurs principaux de ces mondes de l'art, vont jouer dans la manière dont leurs œuvres d'art ne sont pas considérées comme de l'art. Avant même de se poser la question de savoir si elles sont des artistes, il faut déjà qu'elles soient considérées comme produisant des œuvres d'art. Donc ça joue donc sur le fait qu'on fait ou on ne fait pas œuvre d'art, et puis ça va jouer, une fois que éventuellement ce qu'on fait est bien considéré comme de l'art, dans sa valorisation. Donc on a l'exemple de Karim et de tous les travaux qui sont faits sur le rap, mais on a aussi Foppel et Schmutz qui ont montré comment le fait que ce soit une femme qui chante de la pop fait qu'on associe des stéréotypes péjoratifs qui font qu'on a beaucoup plus de mal à la considérer comme une vraie artiste et comme étant en train de faire de la vraie pop ou de la pop de valeur, comparativement aux hommes, même quand elle a réussi. Et elle travaille à partir des critiques portées par Rolling Stones, qui est plutôt un journal majeur aux États-Unis, pour construire justement l'échelle des valeurs entre les artistes et entre les individus. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, les réseaux sociaux. Donc là encore, on n'a pas attendu l'intersectionnalité ou même les études de genre, qui sont quand même plus anciennes, pour se poser cette question des réseaux sociaux. Ward Baker et Pierre Bourdieu en ont largement plus que parlé, ils nous ont donné des concepts pour le travailler. Mais on sait donc que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la construction d'une trajectoire d'artiste. L'avantage d'entrer par l'approche intersectionnelle, c'est que ça nous tombe sur le nez. C'est-à-dire qu'on est obligé de le constater. Et on peut le constater sur différents modes. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fait mon étude sur le jazz, donc j'ai commencé cette étude il y a plus de 20 ans maintenant, Je constate qu'effectivement, il y a un entre-soi masculin qui fait que quand je demande aux hommes, je suis comme Karim, je ne posais pas la question des inégalités femmes-hommes, je posais la question de avec qui tu travailles, comment tu conçois la musique, qu'est-ce qui te plaît, pourquoi tu es là-dedans, pourquoi tu n'arrêtes pas, etc. Parce qu'on se demande souvent quand même pourquoi ils n'arrêtent pas vu les difficultés ou elles n'arrêtent pas. Donc, ces genres de questions-là. Et les hommes me listaient en permanence, même quand ils avaient joué avec une femme d'ailleurs la semaine d'avant, puisque comme chacun d'entre nous, je fais mon petit travail de avant. C'est encore plus simple aujourd'hui avec Internet. Avec qui est-ce que les gens jouent, depuis combien de temps, quelles sont leurs trajectoires, leurs formations. Et ils énonçaient en permanence des collègues masculins et très rarement des collègues féminins. Et quand je leur donnais le nom de ces personnes-là, ils me disaient « Ah oui, mais il y a un moment que je ne l'ai pas vu » ou « Je l'ai vu récemment dans un dîner parce qu'elle est avec mon pote, elle vient de se maquer avec mon pote, etc. » C'est comme ça que progressivement, j'ai pu voir non seulement l'importance des réseaux sociaux pour expliquer qu'un homme ou une femme réussit à travailler, à en vivre et à éventuellement être reconnu, mais aussi pourquoi les femmes se retrouvaient exclues. J'ai aussi constaté que les femmes qui y arrivaient, celles qui réussissaient à rester, étaient sursocialisées, et notamment cette sursocialisation les aidait à pouvoir rester dans ces réseaux sociaux. Donc ça joue dans les deux sens. Le sursocialisé au sens, cette fois, avec des familles plus souvent d'origine sociale favorisée, avec des parcours scolaires plus souvent bien installés et avec bonne réputation, dans lesquels elles pouvaient en partie contrecarrer, en tout cas, ces réseaux sociaux. Également aussi dans des couples très souvent homogames, c'est-à-dire avec un homme qui évolue dans le milieu du jazz, musicien ou éventuellement programmateur ou producteur, et qui va, critique même, j'ai eu différents exemples, et qui va participer à la constitution de ce réseau social, moins efficace que si elles étaient un homme, mais suffisamment efficace pour pouvoir rester dans ce monde-là. Donc, le fait d'arriver par cette question-là de l'inégalité entre femmes et hommes, dans le cas présent, ou selon l'origine sociale, si j'avais travaillé, je l'ai rajouté finalement pour comprendre pourquoi il y avait des femmes qui réussissaient. Donc l'intersectionnalité, elle s'est un peu imposée à moi. C'est-à-dire que femme-homme ne suffisait pas, il y avait aussi l'origine sociale, il y avait aussi la question d'âge. Ouais, évidemment, je ne vais pas développer l'ensemble des résultats, mais ce n'est pas la même chose d'avoir 25 ans ou d'avoir 40 ans quand on est dans le jazz, par exemple, ou dans l'ensemble des mondes de l'art. Troisième point, les trajectoires artistiques dépendent aussi du soutien de la famille de l'artiste. L'argent familial est clé à toutes les étapes. Il y a un très beau travail de Friedman et ses collègues sur le théâtre en Angleterre qui montre que entre 20 et 30 ans, globalement, on n'en vit pas. Et si on a un appartement familial ou si on a de l'argent pour pouvoir tenir, ben, ça fait une très, très grosse différence. C'est très important aussi, là, Hyacinthe Ravel a très bien montré en musique classique et d'autres, dans d'autres domaines. C'est très important parce que je vais plus facilement, en tant que femme, me retirer, puisque plus souvent, c'est moi qui vais jouer le rôle de la mère parfaite qui doit s'occuper de l'enfant. Et l'homme va plus souvent considérer que il peut revenir de temps en temps, il aura joué son rôle de père acceptable. Donc là, c'est du côté du genre. Mais ça va être aussi l'aide à la gestion de la vie personnelle ou professionnelle. Alors évidemment, si on a un partenaire, les femmes vont plus souvent se retrouver à aider un homme et les hommes vont plus souvent se retrouver à être aidés par une femme dans les différents mondes de l'art. Mais ça joue aussi avec les parents. Si cette sursocialisation est particulièrement efficace, c'est parce que les parents, notamment dans la première partie de carrière, peuvent vous aider à comprendre comment ça marche, à rencontrer des gens, à avoir les socialisations passées aussi de l'adolescence ou de l'enfance qui sont plus adaptées, hein, et pas seulement parce qu'on est enfant d'artiste, mais aussi, par exemple, parce qu'on est enfant de personnes d'origine sociale favorisée. Donc les travaux d'Isabella Wagner sur les virtuoses sont particulièrement frappants, puisque tout dépend de la famille, ou de Joël Lallier sur la danse classique, puisque tout dépend de la famille. Mais même dans les endroits où la précocité est moins valorisée, la famille, la première et aussi la deuxième, c'est-à-dire celle dans laquelle on est né, celle qu'on va éventuellement constituer, peut jouer un rôle. Et éventuellement, il faut intégrer les amants et les maîtresses dans les enquêtes quand ça émerge comme quelque chose d'important. Quatrième point, les politiques publiques et les règles légales. Tous les travaux historiques le montrent. L'accès à l'éducation, Séverine Sofio récemment nous a présenté justement comment des femmes, dans une période qui n'est pas particulièrement favorable aux femmes, grâce justement à l'ouverture d'écoles, peuvent accéder à la position d'artiste peintre à certaines conditions dans certains contextes, mais l'accès à l'école, et ça a été montré en musique, en théâtre, Voilà. Dès qu'on ouvre les écoles, on ouvre l'accès aux gens. Alors, pour les femmes, c'est évident, mais finalement, c'est aussi potentiellement vrai pour les personnes d'origine sociale peu favorisée, même si, à mon avis, aujourd'hui, on manque d'enquête là-dessus. On a aussi le fait qu'on ait accès au financement et aux emplois. Les travaux montrent que bah, si on me donne un emploi, on me donne des jobs, on me produit un disque ou on met mon œuvre d'art dans un musée, ben, je vais plus facilement me retrouver en position 2, même si à l'origine, je n'avais pas les choses favorables pour moi. Et ça peut aussi aider à réduire les discriminations. On a le travail très efficace de Golden and Rose sur les orchestres aux États-Unis, où elle se montrait de manière strictement statistique que du jour au lendemain, dans tous les grands orchestres états-uniens, on a mis un paravent, donc on ne voyait plus si c'était une femme, un homme, une personne, quelle que soit son origine. Et du jour au lendemain, on a plus de 30% de femmes. Et donc le simple fait que les... Pourquoi ? Parce que les stéréotypes sociaux, pourquoi ? Parce que... Mais elles ne travaillaient même pas sur le pourquoi. Elles ont juste constaté. Je ne sais pas qui c'est, j'enlève tout ce qu'on vient de dire comme étant des problèmes. Mieux saisir les trajectoires artistiques périphériques, je vais terminer là-dessus. En fait, du moment où je travaille sur l'approche interactionnelle, je vais par définition aller voir des gens, bah, comme l'a fait Karim, des gens qui ont carrière professionnelle courte, ou des gens qui n'ont même pas fait carrière, ou des gens qui ont fait des carrières professionnelles longues, je vais les comparer aux hommes. Si je suis sur les femmes et les hommes, et puis je vais les comparer selon l'origine. Je peux aussi faire, du coup, trouver des gens où je me rends compte qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes origines sociales, ils n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques de genre, ils n'ont pas tout à fait les mêmes... Donc je vais aller chercher du côté des personnes qui ne réussissent pas, qui ne rentrent pas ou qui sortent. Parce qu'on a tendance, dans les travaux sur les arts, à travailler sur les gens qui réussissent, qui font une trajectoire. Or, Coulangeon l'a très bien montré dans son approche statistique de 2004, la moitié des gens qui avaient eu une activité professionnelle en musique n'étaient plus là 10 ans après. Donc le taux de sortie est énorme, et en travaillant sur les sorties, on apprend beaucoup de choses. Et du coup, on identifie mieux les œuvres d'art inattendues, comme Marie Goyon l'avait fait sur ces trois artistes femmes amérindiennes, et on identifie encore mieux les principes de hiérarchisation. Pour conclure, ça nous aide à beaucoup mieux regarder toutes les conditions matérielles de réalisation d'une trajectoire artistique, et de quitter encore plus cette idéologie du talent, du don, dont certains sociologues aujourd'hui continuent à considérer que c'est fondamental et que c'est premier. Ça nous oblige à aller regarder du côté des histoires privées, et pas seulement sur un mode psychologique ou psychologisé comme on peut l'avoir dans les entretiens, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes qu'on rencontre, qui ont parfois eu des problèmes avec la drogue, des problèmes avec l'alcool, des problèmes conjugaux, s'en sortent ou ne s'en sortent pas, quels sont les soutiens, les supports, voilà. Donc les regarder évidemment de manière sociologique. Et qui vont faire que certains traversent ou ne traversent pas ces mondes professionnels. Les trajectoires artistiques sont hiérarchisées et les trajectoires artistiques se réalisent dans la durée. Parce que justement, enfin moi j'ai été obligée, quand j'ai travaillé sur les femmes du jazz, pour comprendre pourquoi il y avait peu de femmes, de travailler certes sur les jeunes, mais aussi sur les beaucoup moins jeunes, comme est en train de le faire Karim avec les femmes des années 90, qui sont beaucoup moins jeunes. Et là, on voit encore plus de sorties, d'exclusion de ces personnes qui n'ont pas les ressources. Merci.
Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Nicolas Roux maintenant, qui va nous parler de ses travaux sur le capital spécifique à l'intersection des rapports de classe, de genre et d'âge, à partir de la trajectoire de non-héritiers ou de non-héritières du spectacle. Je te laisse la parole pour 20 minutes.
Merci au comité d'organisation donc, de m'avoir permis de présenter aujourd'hui, et tout aussi au travail préparatoire qu'il y a avant l'intervention que je vais présenter, les travaux que je vais présenter aujourd'hui. Alors, avant de parler de comment j'utilise ce concept de capital spécifique pour rendre compte des trajectoires dans les arts du spectacle, comme l'a souligné Marie, ce travail prend appui sur un travail doctoral qui a été soutenu en novembre 2017, et qui portait sur la soutenabilité de l'emploi discontinu, sur les conditions de la soutenabilité de l'emploi discontinu, donc au travers d'une comparaison de deux cas contrastés que sont les saisonniers agricoles et les artistes du spectacle, l'objectif étant de faire jouer les différences, notamment de classe, mais aussi de représentation politique, de milieu professionnel, etc., et de voir aussi en interne les différences inter-individuelles, qu'elles soient liées à l'âge, au sexe, aux origines socio-ethniques, etc. Soutenabilité au double sens, pour le dire rapidement, à la fois de supporter, endurer une condition, donc là, relativement précaire, au niveau de l'incertitude, ou alors au niveau des pénibilités du travail spécifique à chaque domaine professionnel, et aussi soutenabilité au sens de préférer ou revendiquer une condition d'emploi qui, là, se distingue de la norme du CDI à temps plein sur laquelle s'est basée la protection, s'est basé le salariat. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc des 16 artistes du spectacle que j'ai enquêté. Artistes du spectacle au sens de l'annexe 10 de l'assurance chômage, donc qui regroupe les artistes dramatiques, de la danse, de la musique et du chant, du cirque et des spectacles divers. Artistes professionnels, donc là, c'est important par rapport à ce que disait Marie Piscato tout à l'heure. L'objectif étant de voir quelles sont les conditions de la soutenabilité. La constitution de la population d'enquête s'est concentrée sur les artistes professionnels et avec une surreprésentation du théâtre et des comédiens, puisque 10 sur 16 sont comédiens et aussi parfois metteurs en scène. Donc ces artistes, je les ai enquêtés au travers d'une approche biographique et longitudinale menée entre 2011 et 2014. Donc la plupart ont été revus au moins une fois, deux ou trois ans d'intervalle, pour un total de 34 entretiens non directifs, avec des entretiens souvent assez longs et riches. Je ne vais pas insister sur la manière dont j'ai construit la population, je vais juste souligner deux choses. Il y a un effort d'essayer de diversifier la population sur le plan de l'âge, du sexe, du domaine d'activité, même si on parle plus des comédiens, et de la situation familiale. Mais privilégier l'interconnaissance que j'avais avec ce milieu-là, dû à un mémoire de master que j'avais effectué sur les artistes du spectacle à Paris, et que j'avais rencontré notamment au sein d'organisations de militants et précaires, font qu'il n'y a aucun héritier des professions du spectacle, c'est-à-dire aucun parent qui n'exerçait dans ces professions-là. Ce qui est peut-être aussi un bon moyen de voir les rapports de domination au travers de trajectoires parfois où il y a des déplacements et des mobilités. Je pourrais revenir plus précisément sur leurs propriétés sociales ensuite dans la discussion, pour pas trop m'y attarder et laisser plus de place au contenu. Alors, donc le capital spécifique, là, il ne vise pas à analyser le champ artistique de manière générale, ses frontières, ses luttes. Je parle en plus des professions du spectacle qui sont un ensemble professionnel à l'intérieur de ce champ. Je préciserai juste pour les situer, ces enquêtés-là, qu'ils appartiennent plus au théâtre de création, au théâtre contemporain, plutôt que le théâtre classique ou au théâtre de boulevard, qui juge parfois négativement comme un théâtre poussiéreux ou sans fond, sans recherche créatrice. Donc ça, c'était pour les situer, mais par contre, j'utilise ce concept de capital spécifique pour rendre compte de l'ensemble des ressources incorporées et institutionnalisées qui forment ce qu'on appelle le droit d'entrée dans les arts du spectacle. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les conditions d'entrée dans les arts du spectacle et ensuite, comment on fait pour durer à l'intérieur. Donc le propos sera de dépasser ou pas faire qu'une analyse de l'habitus ou des enjeux propres à ces professions, mais d'analyser aussi les rapports sociaux de classe, de genre et d'âge, principalement, tout au long des trajectoires sociales et professionnelles de ces artistes. Alors, dans notamment le papier que j'ai présenté, je me suis basé principalement par des cas qui me semblaient représentatifs à la fois de processus transversaux à cette population, mais aussi que j'essaierai de distinguer en fonction des variations donc, liées à l'âge, au sexe et à la classe sociale d'origine. Alors, dans un premier temps, au départ, je voulais vous parler de trois points. Il faudra peut-être que je fasse une économie sur un des trois pour pas trop déborder au niveau du temps. Je voudrais souligner le mouvement d'institutionnalisation du capital spécifique et des inégalités qui contribuent à accroître. Là, c'est plutôt la dimension de la structuration des trajectoires professionnelles. En gros, pour le dire vite, l'accès à la vie d'artiste, elle est de plus en plus dépendante de la précocité avec laquelle on s'engage dans une carrière et aussi du diplôme, mais spécifique aux professions artistiques, c'est-à-dire dans des écoles nationales ou privées renommées dans ce secteur-là. Et là, je mets plutôt au regard l'intersection des rapports de classe et d'âge. Le deuxième point que je voulais montrer, mais c'est peut-être celui sur lequel je passerai moins de temps, c'est l'orientation vers ces professions qui prend des formes différenciées selon la classe, mais aussi le genre. J'analyse le cas notamment de Marie, où on voit que l'art, les professions artistiques représentent une sorte de refuge par rapport à l'expérimentation de la domination sociale et masculine qu'elle a connue dans le milieu d'origine et dans l'espace local d'une ville industrielle de Lorraine dans son enfance. Le troisième point, donc, ce sont les conditions de la soutenabilité de la vie d'artiste sur le long terme et spécifiquement pour les femmes. Donc, c'est peut-être le point qui me semble le plus important parce qu'il permet de faire des parallèles avec les interventions précédentes, et j'essaierai de rendre compte des différentes stratégies en regardant les rapports, l'articulation des rapports sociaux de classe et de genre qui s'imposent plus aux femmes qu'aux hommes pour durer dans ces professions. Alors, concernant l'institutionnalisation du capital spécifique, donc, qui nous permet de prendre encore plus de distance par rapport à cette idéologie du don ou du talent, il faut rappeler tout d'abord qu'il y a un effet d'origine sociale pour occuper ces professions. Alors, je ne m'étends pas là-dessus. Il y a notamment une enquête du département de recherche du ministère de la Culture qui expliquait que les artistes du spectacle ont plus souvent un cadre supérieur ou de profession intermédiaire et moins souvent un père ouvrier que dans les autres professions de manière générale, ce qui rappelle l'enjeu de la transmission précoce du capital culturel et de la socialisation aux activités artistiques. Alors, à côté, voire en même temps que cet effet d'origine sociale, il y a aussi un effet de formation dans les professions artistiques qui est lié à l'augmentation générale de la durée de scolarité, mais aussi à l'accroissement de l'offre de formation artistique, comme l'indique notamment une enquête du CEREC sur le spectacle vivant, qui met en avant deux principaux résultats. Un, la formation favorise l'entrée dans le secteur de ceux qui étaient absents jusque-là, et la probabilité d'être sans activité dans le champ diminue aussi après une formation. Voilà. Donc, d'autres données possibles à présenter, mais je ne m'y attarde pas. Tout ça pour dire que, comme le constatait Catherine Paradise dans les années 90, les comédiens sont de plus en plus diplômés et suivent de plus en plus des formations artistiques dans des cours privés ou au sein d'écoles plus nationales, plus prestigieuses. Donc à ce titre, je parle notamment d'un cas, Michael, qui est quasi unique dans ma population, puisqu'ils sont trois à avoir suivi une école nationale supérieure. Et donc son frère, qui était ancien informaticien, il s'est inséré sur le tard dans le milieu, parle de voie royale pour traduire son insertion, puisqu'il a intégré à 21 ans le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, qui est appelé souvent le Conservatoire ou le CONS pour les initiés, et qui a débouché sur une insertion professionnelle rapide, stable et durable. Alors je passe rapidement sur les apports de cette formation, en signalant tout d'abord que pour entrer au conservatoire, les conditions d'entrée font office de sursélection du point de vue du capital scolaire, du capital spécifique, mais aussi de la précocité avec laquelle ils ont été acquis, puisque par exemple, il faut avoir entre 18 et 26 ans, être titulaire du baccalauréat, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et avoir suivi une formation théâtrale d'au moins un an. Donc il y a une forte sélection à l'entrée. Et ensuite, à la sortie d'un cursus de 3 ans, donc qui est intense, diversifié, à rayonnement international et diplômant, le conservatoire favorise l'insertion professionnelle des élèves par plusieurs mesures, dispositifs pédagogiques, incitations financières pour les employeurs avec des réductions de cotisations, etc. Et donc ça se voit ensuite en termes de progression professionnelle des élèves à la sortie, en termes de durabilité dans le métier, de niveau de salaire ou de réseau d'employeurs, dans un secteur où la rotation de main-d'œuvre est très importante et où l'ancienneté est en général réduite, ça on l'a déjà dit. Donc je ne développe pas plus avant cette dimension. Je vais parler maintenant de ce que des enquêtés appellent des trajectoires de côté, c'est-à-dire à côté de ces institutions de formation dominantes et qui se font parfois aussi de manière tardive, c'est-à-dire par rapport aux âges modaux dans les professions. Et donc ces trajectoires de côté, elle se manifeste sous deux aspects, donc sur le plan, sous la forme institutionnalisée, c'est-à-dire ces artistes-là, donc, qui constituent la majorité de la population, sont dans des réseaux de compagnies qualifiées de petites ou émergentes, et donc moins souvent conventionnées, et moins souvent dans les réseaux nationaux. Et ça se manifeste aussi de manière incorporée, dans la mesure où les enquêtés expriment soit un sentiment d'illégitimité ou de ne pas avoir la disposition attendue dans les arts du spectacle, et notamment un sens du placement à même de favoriser les rencontres. Il y a le cas, par exemple, de Karine, comédienne issue d'une famille ouvrière qui s'est longtemps, a longtemps ressenti un sentiment d'illégitimité jusqu'à la fin de sa carrière à 58 ans. Donc là, je n'ai pas le temps de parler des conditions qui font qu'elle a pu durer, mais pour dire en gros qu'il y a eu un âge d'or, ce qu'on appelle les intermittents, on appelle souvent un âge d'or de l'intermittence dans les années 70 et 80, pour un contexte qui était plus favorable qu'aujourd'hui. Donc elle a réussi à rester dans ce milieu, mais elle s'est toujours sentie un peu de côté, notamment dans les occasions de mondanité de la vie d'artiste, où elle explique par exemple que lorsqu'elle se retrouve à boire un verre avec des comédiens et des metteurs en scène, elle ne trouve pas le moyen de dire à ces personnes-là de rentrer dans un rapport de séduction dont les femmes ont plus conscience dans les entretiens de la nécessité de jouer ce jeu de séduction. Et elle dit, mais moi ça m'énerve, en même temps j'aimerais bien pouvoir lui dire, ça m'a plu, je serais très heureuse de pouvoir travailler avec vous, mais je ne sais pas faire ça. Alors, donc ces distances aux mondanités de la vie d'artiste et un sens du placement, elles reflètent à la fois une insertion professionnelle donc de côté sur le plan institutionnel et la manière de se sentir de côté sur le plan des dispositions, qui peuvent être lues comme une sorte de reflet des hiérarchies internes du spectacle selon les trajectoires professionnelles des individus. Alors je vais passer aux autres points de mon intervention. Donc là j'ai essayé de présenter les enjeux structurel du capital spécifique et notamment l'enjeu de sa constitution précoce. Je vais m'attarder maintenant un peu plus sur les effets des inégalités de sexe sur le rapport des femmes artistes par rapport à leur métier. Alors, il y a plusieurs données qui reflètent ces inégalités. Là, je évoque juste un rapport ministériel d'un spectacle vivant de 2016 sur la question qui montre par exemple que les compagnies dirigées par les femmes les femmes sont 30% à diriger des compagnies alors qu'elles sont davantage présentes dans le secteur, moins de 50%, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est en deçà de leur présence dans le secteur. On pourrait parler des grands prix littéraires ou des prix au Festival de Cannes où elles sont sous-représentées également. Et donc dans les entretiens, par exemple, le cas de Marie, qui, elle, est fille d'un père ingénieur et d'une mère sans profession d'une ville industrielle de Lorraine et qui s'est insérée tardivement dans le secteur et qui dit qu'elle a intériorisé cette domination-là. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de te dire qu'une femme ne fait pas de la création. Toi, tu l'intègres complètement, comme pour souligner que la force de l'ordre masculin s'impose aussi dans ces professions-là. Marie se sentant davantage tenue de prouver plus que les hommes, qu'elle doit vendre ses spectacles et que ses spectacles sont de qualité. Merci. Alors, du coup, comme j'ai 5 minutes, je ne développerai pas le point qui consiste à dire que son orientation dans les professions artistiques, ça fait sens à un héritage social et familial qu'elle identifie comme bourgeois ou petit bourgeois, et où les professions artistiques représentent une sorte de refuge à la violence du monde social qu'elle a expérimenté durant sa socialisation primaire. Je vais passer donc à mon troisième point, qui sont les conditions de la soutenabilité de la vie d'artiste une fois qu'on a intégré cette vie d'artiste. Donc, Marie, elle a connu une trajectoire non linéaire, donc qui s'oppose à la voie royale de Michel que j'évoquais tout à l'heure. Elle est passée par l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, mais à l'âge limite de 23 ans, et dans un contexte qu'elle présentait comme défavorable, c'était l'époque où l'ENSAT délocalisait l'école de Paris à Lyon, et qui n'était pas encore associée au Jeune Théâtre National, qui est une école qui valorise notamment les jeunes acteurs prometteurs et qui favorise leur insertion professionnelle. Et donc je me suis posé la question, comment, après avoir vécu une période de précarité jusqu'à 31 ans, où elle enchaîne le chômage, les petits boulots, les problèmes d'endettement, etc., comment elle est parvenue ensuite à durer en tant qu'artiste, au-delà de 40 ans, elle a 42 ans lors du second entretien, tout en assumant des responsabilités familiales, puisqu'elle est en couple avec deux enfants. Donc je porte attention à deux types de stratégies, donc les unes ayant cours dans l'espace professionnel et les unes dans l'espace domestique, mais qui ont un même objectif, à savoir dégager un maximum d'autonomie pour le plein investissement dans le travail. Alors, en termes au niveau professionnel, donc je parle de stratégie de diversification professionnelle pour ne pas dépendre que du plateau. Donc, il y a plusieurs choses qu'elle a faites. Donc, en 31 ans, par exemple, elle s'est réinvestie dans les écritures contemporaines. Donc, c'est-à-dire qu'aux activités de comédienne et de metteuse en scène s'ajoute celle de l'auteur, et c'est par cet intermédiaire qu'elle va recevoir une reconnaissance institutionnelle. Alors, elle a reçu un prix littéraire pour un de ses ouvrages, sa compagnie a été subventionnée, etc. Ce qui représente un palier par rapport à son rapport au métier, une sorte de décomplexion, entre guillemets. Mais un autre élément que je voudrais soulever, c'est le rôle de la compagnie, c'est-à-dire le statut de salarié-employeur qui est assez relativement fréquent, de l'ordre de à peu près 1 sur 3 chez les intermittents du spectacle, qui lui permet d'opérer une diversification interne de l'activité. C'est-à-dire, je ne dépends pas que du plateau pour vivre artistiquement. Je vais expliquer comment ça opère, mais en gros, c'est une réponse à la concurrence et aux inégalités interindividuelles dans les arts du spectacle, notamment parce qu'on sait que le vieillissement est préjudiciable pour l'ensemble des artistes, puisque les artistes de plus de 50 ans sont rares dans ces professions, mais il est d'autant plus préjudiciable pour les femmes qui ont une moindre survie professionnelle dans ce secteur, et notamment avec d'autres raisons spécifiques qui sont liées par exemple à la période de la grossesse et au congé maternité qui représente un risque donc dans ces carrières-là. Et donc la compagnie, à ce titre-là, permet de ne pas être qu'interprète, mais de ne pas être dépendante du désir des autres, notamment des metteurs en scène. Donc c'est un support à la mise en scène, mais c'est aussi un support d'emploi. Donc, par exemple, elle raconte comment elle a adapté les rôles, soit pour elle-même, soit pour d'autres comédiennes, au corps soit vieillissant des acteurs et actrices, ou au corps des femmes enceintes. Donc, par exemple, sur scène, elle faisait manger des chamallows à une femme qui était enceinte de 6 mois pour faire passer sur le plan de l'interprétation ce trait physique. Et c'est aussi un support d'emploi au sens que ça lui permet de renouveler ses droits à l'intermittence. Alors il y a bien sûr des contraintes multiples qui sont le fait de la figure de l'entrepreneur qui doit créer son activité, ce qui suppose de nombreuses inégalités tant sur le plan du capital spécifique que du capital économique. Donc là, je ne m'attarde pas là-dessus, mais comme l'a dit Marie Buscato, par exemple, Marie, c'est celle qui a un des plus importants revenus et patrimoine immobilier, puisqu'elle est notamment propriétaire et perçoit un revenu net de 3 000 euros. Voilà, ce qui est, dans la population et en termes de revenus médians, plus élevé parmi les professions artistiques. Donc il faut conclure. Le dernier point, avant justement la conclusion, c'était l'importance de l'homogamie. Marie, par exemple, est en couple avec un médecin et les rythmes inversés de la vie d'artiste ont participé à la rupture. Et depuis qu'elle est avec un comédien et conférencier, elle parle d'une compréhension de son investissement permanent dans le travail qui peut aller jusqu'à travailler le jour de la césarienne. Bon, je passe sur des anecdotes comme ça, mais pour vous montrer un peu les contraintes aussi pour durer. L'emploi de deux assistantes maternelles pour continuer à travailler, etc., être disponible le soir. Donc en conclusion, le cas de Marie via l'intersectionnalité me permet de montrer une sorte d'ambivalence, c'est-à-dire que d'un côté, il montre une institutionnalisation du capital spécifique, parce que même si elle s'est insérée tardivement et qu'elle n'a pas pu profiter de suite du passage par une école nationale supérieure. Ça lui a profité après coup et elle a quand même aussi hérité d'un certain capital culturel lié notamment à ses parents. Mais d'un autre côté, elle montre aussi les conditions sociales d'une lutte plutôt pratique contre les dominations masculines dans ce secteur-là, notamment au travers de stratégies visant à avoir une répartition plus égalitaire dans le couple entre le travail professionnel et le travail domestique. Et je n'ai pas évoqué la lutte symbolique et politique que les femmes artistes peuvent développer pour déconstruire les mécanismes producteurs de cette domination au travers de l'engagement syndical ou d'associations pour l'inégalité homme-femme. Mais ce que je veux retenir pour terminer, c'est que son cas, il montre des possibilités d'évolution du rapport au métier au fur et à mesure d'une acquisition d'une légitimité qui évidemment présente certaines conditions sociales. Et donc vous aurez compris, et là vraiment ce sera mon dernier mot, que l'approche intersectionnelle là ici c'était pas de donner la parole à des groupes dominés mais plutôt de rendre compte des inégalités sociales et sexuées dans des groupes et des classes dominants, donc classe supérieure et profession artistique, et de montrer en quoi donc, ces pratiques émancipatoires permettaient d'éclairer les mécanismes de domination dans ces professions et vice versa. Excusez-moi pour avoir terminé rapidement, et je vous remercie pour votre attention.
Oui. Merci beaucoup, Nicolas, pour en plus avoir rendu les maris majoritaires à cette table. Il n'y avait que des maris. Merci à tous les trois. Je pense qu'on a une session qui est assez cohérente sur les thématiques que l'on peut aborder en termes d'intersectionnalité de trajectoire artistique, avec une proposition épistémologique et en fait presque méthodologique, en fait, de Marie Buscato sur les façons d'étudier les trajectoires artistiques à l'aune de ce concept d'intersectionnalité et qui semble en tout cas illustrée ou mise en pratique de manière anachronique par Karine Lamont et Nicolas Roux sur ça marche pas ?
Merci.
Merci. Oui, c'est un peu plus fort. Ouais. Donc, qui semble avoir été mis en pratique ou illustré de manière anachronique, bien sûr, par Karine Lamont sur le monde professionnel du rap et par Nicolas Roux sur plutôt le monde professionnel du théâtre. Il semble ici important de penser le travail artistique sans seulement regarder l'entrée dans la vie d'artiste, comme ça a pu être fait, mais aussi de regarder l'ensemble des dispositions, des événements et des mobilités qui permettent d'y rester, ce que Nicolas a pu appeler la soutenabilité de la vie d'artiste. Et notamment, pour penser cette soutenabilité de la vie d'artiste, les trois communications ont mis en exergue un rapport social qui n'était pas forcément le plus pensé au moment où on écrivait cet appel à communication, qui est le rapport social d'âge, qui notamment hier est apparu plusieurs fois dans plusieurs communications, et qui apparaît comme un rapport social un peu important pour penser cette durabilité de la vie d'artiste, cette entrée dans la vie d'artiste, cette possibilité de se professionnaliser en tant qu'artiste. Que ce soit quand on regarde les pratiques qui sont associées aux âges de la vie, à l'adolescence, ou aux mobilités qui sont induites de fait par l'avancée en âge. Notamment, en fait, quand on se demande comment est-ce qu'on reste dans le métier. Y rester signifie probablement donc vieillir dans le métier et donc obtenir un certain nombre de dispositions ou de gains de plus en plus importants et donc des gains de consécration avec la montée en âge parce que rester dans le métier signifie trouver des raisons subjectives d'y rester et donc justifiables auprès de soi-même, auprès de sa famille, etc. Donc gagner plus d'argent, un certain nombre de consécrations, être signé dans une maison de disques ou pas, par ailleurs, un disque d'or, un prix, une direction de CDN, etc., qui devient pratiquement de plus en plus important, crucial pour justifier le fait de rester dans ce métier-là. Et donc, là, cette variable d'âge est apparue de manière un peu, alors je ne vais pas dire surprenante, mais presque par rapport à la manière dont on avait pu rédiger l'appel à communication et la note d'intention de ce colloque. Alors, je propose
de poser trois questions, une à chacun des intervenants, et de passer tout de suite la parole à la salle, de manière à ce que les intervenants réfléchissent à des réponses à l'ensemble des questions qui leur ont été posées, et y compris sélectionnent les questions qui les intéressent plus. Hein. Ne vous sentez pas obligés d'y répondre. Karim, bon, forcément, j'ai beaucoup de questions. Je vais en poser principalement une. Alors, sur quelque chose que tu n'as pas dit à l'oral, mais qui était à l'écrit, parce que j'ai eu des textes de communication qui étaient, pour certains des intervenants, beaucoup plus longs que ce qui a été dit ici. Mais notamment, tu évoquais une mobilité de genre et de race, et notamment une ascension de genre et de race. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu peux parler ici. Alors, on sait que ça a été travaillé, notamment sur certaines pratiques professionnelles, notamment, je pense à un ouvrage de Daniel Kergoat et des co-autrices sur l'inversion du genre, qui notamment montre que l'avancée en mixité dans les milieux professionnels ne signifie pas forcément une avancée en égalité. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes dans le milieu du rap, ce qui n'est par ailleurs pas forcément le cas, que celles-ci sont mieux traitées, mieux perçues, mieux écoutées, etc. Mais là, en l'occurrence, tu parlais d'une mobilité ascendante de genre pour les femmes que tu écoutes, et du coup, j'ai pas... Enfin, voilà, si tu peux éventuellement en parler, si tu as un peu le temps. Pour Marie, il semble que dans ton travail, l'intersectionnalité est convoquée pour venir apporter de la classe sociale, enfin un regard sur la classe sociale et sur l'âge, et mieux comprendre le rôle du genre dans les trajectoires artistiques. Et je voulais savoir si éventuellement il y avait d'autres types de rapports sociaux que tu avais pu aussi observer, que ce soit dans les mondes du jazz ou ailleurs, qui permettaient de rendre le concept d'intersectionnalité particulièrement pertinent. Et enfin, une question à Nicolas, qui m'est venue en fait hier avec la table ronde, alors que tu n'étais pas là, il me semble, mais où Eva Doumbia, qui est metteuse en scène racisée, et qui évoque durant cette table ronde justement en fait un parcours, alors qui semble être à la fois de côté et en même temps voie royale, parce que alors elle a à la fois fait des études à l'université, etc., mais elle a aussi, alors il me semble un peu sur le tard, parce qu'à 33 ans, intégrer une promotion du GTN, voire royale, et qui dit qu'aujourd'hui, dans sa promotion, elle est la seule à avoir une compagnie indépendante. En fait, elle a une compagnie indépendante et elle dit que c'est la seule de la promotion à rester dans cette position-là, là où tous ses anciens camarades de promotion sont aujourd'hui dans des positions de direction, de grande compagnie, voire même de CDN, et donc qui évoquait deux types d'explications à ça. Le rapport social de race ou une position critique de son théâtre politique. Voilà, je ne sais pas si tu as des choses éventuellement à dire là-dessus. Tu n'es pas obligé parce que ce n'est pas un des rapports sociaux que tu as étudié forcément sur le terrain, mais si jamais tu avais des choses à dire aussi sur le rôle de la race dans ces mobilités sociales au sein du monde professionnel du théâtre. Comme je le disais, je vais passer la parole à la salle tout de suite, prendre plusieurs questions et comme ça, voilà, on répondra. Les intervenants répondront tous ensemble.
Oui, bonjour, Julien Mallet, chercheur à l'URMIS. Ça marche, ouais. Ok. C'était une question pour Marie Buscato. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante et pour cette vision élargie de la notion d'intersectionnalité et de comment elle peut être mobilisée de façon holistique. Alors, j'étais un peu frustré, il y avait un petit absent pour moi dans votre intervention, la race. Et donc ça rejoint un peu d'autres questions qui ont été dites là. Et alors par exemple, je ne sais pas, enfin, la figure de la femme, évidemment, par exemple, hein, de la femme noire dans le jazz s'inscrit, comment elle s'inscrit dans des enjeux de légitimité ou des imaginaires d'authenticité dans les trajectoires sociales et de genre.
Et alors Marie, j'espère que ma question ne va pas te paraître trop méchante parce que j'ai adoré ta communication que j'ai trouvée très claire et structurée, mais c'est un peu pour préparer la conclusion du colloque. Pour l'instant, tu es une des rares qui emploie le terme d'intersectionnalité. sans avoir forcément justement mobilisé la question de la race, puisqu'il y a plusieurs manières d'appréhender l'articulation des rapports sociaux. On peut parler de consubstantialité, d'intersectionnalité. Toi, tu es une des rares à l'avoir utilisé pour l'instant, sans forcément que ça ait l'air de poser question. Et juste, je voulais savoir... oui. Intersectionnalité. Voilà. Le fait que tu utilises ce concept, comment toi tu t'y réfères en fait ? C'est pour préparer ma conclusion tout à l'heure, donc je te remercie.
Voilà. Mathieu Bézier, je tenais à vous remercier pour vos différentes interventions qui étaient assez riches. Par contre, j'ai une question pour Marie. D'abord, je fais un commentaire pour dire que justement. Lorsqu'on se réfère à l'approche historique, puisque là vous êtes beaucoup axé sur la musique, notamment le jazz, par définition, la musicologie qui définit comme quoi les musiques savantes écrites occidentales et l'ethnomusicologie qui prend en compte les musiques non savantes et donc des traditions orales qui ne sont pas occidentales. Est-ce que du coup, du point de vue historique, il n'y a pas, on va dire, cette disqualification qui est faite déjà à l'origine et qui, à mon sens, continue d'influer ou d'influencer ces approches-là qui se meuvent justement dans les rapports sociaux et compagnie. Je dis, il aurait aussi fallu faire une approche historique qui allait boucler la boucle, quoi. Parce que pour moi, les rapports sociaux sont aussi historiques, sont basés sur l'histoire, sur tout ce qui contribue à l'évolution des classes sociales, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement des éléments historiques à mettre en exergue par rapport à tout cela?
Merci. Merci pour les questions. Je vais y répondre dans le désordre, avec une volonté d'être rapide et suffisamment clair. Pour ce qui est de mon usage du concept d'intersectionnalité, en fait, j'ai écrit un article en 2016 sur les usages scientifiques du concept d'intersectionnalité dans la revue Recherche sociologique et anthropologique, qui voulait en fait une réflexion un peu sur comment on peut l'utiliser en tant que chercheur. Par différenciation avec les usages militants qui peuvent en être faits. Et donc je reviendrai un petit peu sur le choix que j'ai fait à ce moment-là de considérer que adopter une approche intersectionnelle quand on est sociologue, c'est finalement travailler sur la production des inégalités à partir des manières dont les différents déterminants sociaux travaillent ensemble ou non à produire ces inégalités. Donc on peut avoir des cas dans lesquels deux déterminants sociaux plutôt défavorables vont travailler ensemble, origine sociale défavorisée, être une femme, mais il y a des cas où à l'inverse, ils travaillent de manière contraire ou contradictoire. Donc voilà, par moment ça travaille ensemble, par moment ça ne travaille autrement, par moment ça ne travaille pas. Dans le sens où je peux arriver avec l'idée, donc c'est la deuxième question de racisation, mais si ça ne correspond pas à mon terrain, ça ne va pas m'amener très loin. Donc, par exemple, quand je travaille sur le jazz en France, pour donner cet exemple, j'ai tellement peu de personnes homosexuelles ou j'ai tellement peu de personnes noires que cette question-là n'émerge pas dans mon terrain comme une question à partir de laquelle je peux sérieusement travailler. C'est-à-dire que si je veux commencer en tant que sociologue à travailler, je ne peux pas travailler sur un cas au milieu de... Je vais être dépendante de ce que la personne va me dire. J'ai vécu de l'homophobie. Très bien. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais si j'ai une personne? Est-ce que c'est de l'homophobie? Est-ce que c'est de l'origine sociale? Est-ce que... Donc, pour travailler sur un... Parce que moi-même, j'aurais aimé travailler là-dessus. J'ai encore... Là, j'étais en intervention dans un conservatoire et j'ai parlé de cette question avec les personnes concernées, c'est-à-dire des gens qui sont dans les milieux du jazz et des musiques actuelles. Pour travailler sur une question, il faut avoir quand même plusieurs cas. Ou alors, on peut faire un portrait qui est intéressant, mais qui n'est pas difficilement de l'ordre de l'analyse sociologique, sauf si on peut le rattacher à d'autres cas. Voilà, donc on est vraiment, pour moi, sur cette question-là. Donc si je travaille sur le jazz aux États-Unis, il est évident que je travaille sur la racisation et la question des rapports femmes-hommes-noirs. Le travail d'Alice Aterrienus, malheureusement, je ne l'ai pas cité, elle travaille sur le rap au Gabon, elle est en permanence, non seulement elle parle de couleur de peau, mais dans le cas présent, avec le rapport entre les personnes de couleur de peau noire et les personnes de couleur de peau blanche, mais en plus, comme on est au Gabon, selon l'origine ethnique, selon le village, parce que les fonctionnements sociaux nous dictent vers où sont les déterminants sociaux qui parlent. Donc évidemment, son travail est extrêmement juste et pertinent. Et ça m'amène à la troisième question sur l'approche historique. L'approche historique, en tant que sociologue, chaque fois que je vais voir des gens, ils me disent « mais ça, c'est l'histoire, ça, c'est historique, ça, c'est l'héritage du passé ». Donc ce qui m'intéresse plutôt en tant que sociologue, c'est de prendre ces discours sur le passé qui expliqueraient pourquoi il n'y a pas de femmes dans le jazz, pourquoi les œuvres d'art d'Amérindiennes au Canada ne sont pas considérées comme des vraies œuvres d'art. Donc oui, il y a un discours sur le passé qui légitime le fait qu'on a un canon, ou on a une manière de fonctionner, ou on a des pratiques qui sont installées. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est de voir comment ces pratiques, ces canons, sont mis en place et continuent à exister, alors que finalement l'histoire... c'est l'histoire, c'est le passé, par définition. Parce que mon travail, c'est d'être sociologue. Et les historiens, les historiennes, comme Vera Léon, qui travaille sur des écoles de photographie, ou Séverine Sofio, qui travaille sur les arts plastiques, bon, qui sont les gens qui travaillent avec nous, sociologues, elles font la même chose avec leurs sources. C'est-à-dire qu'elles essayent de travailler leurs archives et leurs sources comme des choses qui disent qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles sont les pratiques. Et elles prennent finalement les discours sur l'histoire qui expliqueraient certaines choses comme une des manières de légitimer ou de produire ces inégalités. Et donc, je pense que j'ai répondu. Dernière question que j'espère pouvoir à laquelle je pourrais répondre. Ce que tu as très bien dit, j'avais dit que c'était épistémologique dans sa nature. Tu as dit, mais c'est aussi méthodologique. Bah, par définition, épistémologique, c'est d'essayer de voir comment on construit de la connaissance. Vous avez usé du mot usage heuristique du concept d'intersectionnalité. Donc, effectivement, moi, mon objectif ici, c'était de dire, si je rentre avec une approche intersectionnelle, qu'est-ce que ça me fait faire en tant que chercheur ou chercheuse ? Ça me fait aller chercher les gens qui sont sortis, les gens qui sont virés, les gens qui sont exclus, les gens qui sont marginalisés. Et comment le fait que ça m'oblige à aller chercher ces personnes-là dans mon matériau et les inclure dans mon matériau me permet d'accéder à la production des inégalités dans leur variété et leurs éventuelles articulations. Est-ce que être un homme blanc vieux, c'est mieux que d'être un homme jeune ? Dans le jazz, oui, par exemple. Donc l'âge peut fonctionner dans les deux sens. Tout dépend du niveau de reconnaissance dans lequel on est, etc., etc.
Je vais essayer de répondre à la question que tu m'as posée. Les rapports sociaux de race étaient moins présents dans l'enquête, notamment parce que j'étais pas rentré au départ dans une perspective intersectionnelle, donc ça m'est moins apparu, mais il y avait quand même quelques éléments à ce propos. Je citerai rapidement le cas de, pour le mettre en perspective, de Camilla, qui est originaire du Chili et qui où on retrouve des processus à la fois similaires et différents de ce que j'évoquais tout à l'heure. Elle arrivait tardivement en France, et donc avec toutes les conséquences sur la trajectoire professionnelle. Là, il y a un double rapport au métier qui s'inscrit dans un espace national, puisqu'elle parle de milieu bourgeois, du théâtre. Elle est d'origine des classes populaires, et notamment de la classe ouvrière, avec un héritage de Pinochet, etc. Donc, un rapport douloureux à ce milieu professionnel qui a des conséquences donc, dans les modes de mise en relation avec ses collègues. Mais elle parle aussi de la France comme pays bourgeois. Donc, c'est-à-dire il y a deux niveaux de rapport social, enfin, un niveau national, international, que je n'ai pas plus développé que ça, mais qui serait intéressant de le faire. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que là, les inégalités en termes de capital spécifique, mais aussi capital culturel, sont décuplées par rapport à la question de la langue, à la question de la connaissance des réseaux nationaux qui font que l'accès aux écoles est encore plus compliqué et qu'elles se retrouvent notamment à payer des cours privés très chers qui l'endettent et qui n'ont pas d'effet immédiat sur l'intégration professionnelle. Et ça soulève au final, à mon sens, l'enjeu aussi des conditions d'entrée, donc ce que je disais tout à l'heure, sur dans les grandes écoles nationales ou privées, notamment encore plus nationales, par exemple sur le fait d'avoir le baccalauréat, ce qui exclut certains profils sociaux et on sait socio-ethniques. Donc on évolue de plus en plus vers une sursélection dans ces écoles, ce qui néglige certains profils. Voilà, c'était à mon avis le dernier point que je voulais, sur lequel je voulais insister en termes de possibilités de réduction de ces inégalités-là.